savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, alors une fois n'est pas coutume, nous vous invitons dans l'émission à savourer une délicieuse pâtisserie orientale, le cigare au miel. C'est une pâtisserie qui a tout pour plaire, y compris, je trouve, son nom qui croise les attributs du cigare, si typiquement masculin, à la douceur du miel, douceur qu'on attribue si facilement, peut-être trop facilement, on en discutera, à l'essence féminine. Cigare au miel, c'est le nom de votre premier long métrage, Camille Reynous. Bonjour.
Bonjour.
Le cigare au miel du titre, bien sûr, c'est la gourmandise préférée de votre héroïne, Selma Zoé Adjani, 17 ans. Nous sommes au début des années 90. Selma vit dans une banlieue chic de Paris avec ses parents, Lia Salem et Amira Kazar, lui avocat, elle gynécologue. Ils ont dû fuir l'Algérie et pour leur fille, bien sûr, ils rêvent d'un riche mariage. Selma, elle, tente de trouver sa place dans l'école de commerce où elle a été admise auprès d'une jeunesse dorée, bruyante, fêtarde, de ces garçons BCBG qui regardent avec convoitise cette très jolie fille. Comment concilier les aspirations de ses parents avec ses envies? C'est tout le sujet de votre film, Camille Reynous, qui raconte avec beaucoup de sensibilité et de violence aussi comment une jeune femme arrive à tracer sa voie dans un monde où tout semble avoir été décidé par avance pour elle, pour son bien, bien entendu. Alors comment elle est née, cette Selma, qui est à la fois rebelle et obéissante, premier degré et pourtant ironique, qui refuse les assignations et qui pourtant fonce tête baissée dans tous les pièges, cette Selma qui se dit double, algérienne et française, et qui pourtant n'arrive à être nulle part. C'est un peu un paquet de contradictions, Camille Reynous.
Oui, alors déjà, je voudrais juste reprendre une chose par rapport à parents, ce que vous disiez. C'est pas tant qu'ils ont dû fuir l'Algérie que plutôt un choix qui a été fait à une époque de tenter une expérience ailleurs, peut-être, effectivement, dans un pays qui leur était familier, ou en tout cas dans la culture leur était familière. Et ensuite, des événements, comme beaucoup hein, de monde de la diaspora algérienne en France ou à l'étranger, les événements des années 90 ont fait que le retour est paru de plus en plus improbable. Donc je ne dirais pas qu'ils ont véritablement quitté ce pays, mais malheureusement, c'est devenu difficile, particulièrement d'élever leur fille là-bas, effectivement. Et la façon dont ce personnage est né, il est né d'une vision, en réalité, il est né d'une image que j'avais dans la tête d'une jeune femme, d'une jeune fille étendue sur un lit, qui avait l'air complètement écartelée psychologiquement, physiquement, qui n'allait pas bien. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'elle était écartelée justement entre ces deux cultures, entre sa culture française et sa culture algérienne, et que bien sûr il y avait une résonance, il y avait quelque chose d'autobiographique, de très familier là-dedans, mais en même temps c'était déjà un personnage, et comme vous le dites très bien, c'était un personnage déjà plein de contradictions, de paradoxes, et c'est justement, je trouve, ce qui fait la richesse d'un personnage de fiction, et même dans la vie, de toute façon, de tous les jours, de ces paradoxes qui nous habitent et qui font qu'il est difficile de se positionner, difficile de rentrer dans des cases parfois, et pour elle, de rentrer dans un système, et là, pour le coup, de rentrer dans la vie, c'est-à-dire en tant que femme, dans un système qui, à l'époque et encore aujourd'hui, est régie par enfin, ce qui est un système patriarcal. Donc, et là, pour le coup, ce n'est ni algérien ni français. C'était comment est-ce qu'elle va parvenir à exister et à devenir, alors même que toutes ces injonctions contradictoires viennent s'abattre sur elle à ce moment clé du passage à l'âge de femme, en fait.
Mais vous vous êtes inspiré de votre expérience à Paris dans les années 90?
Oui, c'est ça, quand vous dites une photo, c'est une vraie photo ou c'est une photo mentale?
Non, c'est une photo mentale, c'est vraiment une vision. Ça veut dire donc que c'était déjà devenu de la fiction dans ma tête. Donc oui, c'est des sens autobiographiques, dans le sens où je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, particulièrement d'un milieu aussi qui était le mien, c'est-à-dire que j'ai eu cette chance de grandir dans un milieu éduqué, d'universitaire. En fait, ce qui permettait dans ce film, finalement, de s'intéresser à la question véritablement de la femme, de sa sensualité, de son devenir par rapport aussi à sa sexualité, puisqu'on n'était pas dans des considérations ni sociales, ni de religion, comme très souvent d'ailleurs. On nous enferme, en fait, quand on est issu de l'immigration. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien au contraire. Et heureusement, c'est traité, mais ce n'était pas, moi, mon exemple. Donc oui, c'était bien sûr que ça vient de ce que je connais. Mais là-dedans, il a fallu très vite, et d'ailleurs, ça m'est apparu très vite, la dimension fictionnelle pour aller raconter quelque chose qui dépasse, en fait, l'expérience personnelle et quotidienne.
Camille Reynouze, vous avez accepté et nous vous en remercions de décrypter pour nos auditeurs, plan par plan, les 10 premières minutes de votre film. Cigare au miel, première bobine, c'est parti. Un visage, celui d'une toute jeune femme allongée sur la grève, c'est Selma, bien sûr, avec en bruit de fond déjà... le ressac de la Méditerranée.
Alors sur ces sur cette musique que l'on entend, c'est la musique en fait du générique de début de film, avant qu'on rentre véritablement avec le personnage de Selma dans le film. Et c'est une musique que j'ai créée avec Julie Rouet, enfin que Julie Rouet a composée, mais dont on a beaucoup parlé ensemble, parce que ce qu'on a voulu mettre en scène de manière sonore, c'était justement l'intériorité de Selma. Et donc il y a ces souffles et ces vagues de désir justement d'intériorité comme ça que voilà. Et derrière la voix de Zoé qui arrive.
Elle sentait le souffle de Karim contre sa joue. Et sous la toile de sa galabillée, sa peau chaude et âpre, mouillée de sueur.
Alors, le choix de ce texte, d'ailleurs, il est venu en fin de montage, en réalité. C'est-à-dire que j'avais déjà réfléchi pendant le scénario à avoir une voix off comme ça, qui soit écrite et qui soit l'intériorité partager de ce personnage, soit d'aller chercher un texte. Et je trouvais pas. Et finalement, c'est en fin de montage image que ça m'a percuté. En fait, je me suis dit, mais évidemment, parce que j'ai grandi. En fait, j'ai beaucoup lu les textes de les livres de Gilbert Sinoué quand j'étais plus jeune. Parce que ce sont justement souvent des récits qui sont comme ça, à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, et avec une sensibilité d'un désir très oriental, en fait. Et moi, c'est là-dedans que j'ai grandi. Et c'était ça que je voulais raconter avec ce film, c'est-à-dire que ce personnage ému par un désir puissant, mais qui lui vient de ses racines algériennes, en réalité. C'est pas parce qu'elle est en France qu'elle se libère, c'est parce qu'elle est algérienne qu'elle a cette combativité et cette sensibilité à la sensualité, aux odeurs, au toucher, enfin qui a été exacerbée, que justement elle va trouver ça en elle et qu'elle va vouloir le défendre.
Plan suivant et montage cut, Selma avale goulûment une pâtisserie, qui est le fameux cigare au miel.
Ouais, voilà. Et c'était en un plan, une façon de, vu qu'on venait de découvrir une jeune femme désirante, l'idée c'était de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien dans la façon dont elle le mange qu'il y a une forme de compulsion. Et pour moi, tout est dans le titre d'ailleurs, c'est-à-dire que l'idée, c'était que ce qu'elle ne peut pas vivre au quotidien avec son corps, elle le compense justement par ses sucreries et par cet appétit qui se place ailleurs, quoi. Donc c'était une façon de poser le personnage dès le départ.
Dans notre école, Selma, nous recherchons des profils uniques. Donc avez-vous d'unique que les autres n'ont pas ? Vous êtes algérienne ?
Oui.
Ça ne se voit pas.
Pourquoi ? Parce que j'ai la peau claire ?
Puis on voit Selma devant un jury. Alors on dirait maintenant des vieux mâles blancs. Hein. C'est, oui. Elle est devant un jury d'oral pour rentrer dans une école de commerce.
Voilà, c'est ça. Alors oui, c'est bien qu'on ait ce recul aujourd'hui. Alors même que cette école... Donc, moi-même, j'ai fait une école de commerce internationale et... Il y avait plein de choses fantastiques, déjà à commencer par le fait que c'était international, cosmopolite, et que donc l'esprit était plutôt ouvert. Ensuite, ça restait effectivement un milieu très patriarcal et l'antichambre, en fait, derrière du monde de la finance qui lui-même l'est encore plus. Et donc, voilà, c'était une façon de la poser directement là-dedans et de la confronter à ce regard-là. Et aussi, à travers ça, ça lui permet de se définir presque malgré elle, mais finalement d'aller chercher en elle les ressources pour pouvoir plaire, mais d'un point de vue d'entretien en fait, hein, mais de pouvoir faire ressortir sa personnalité, ce qu'on lui demande. Ce qui en ressort finalement, c'est qu'elle est double, effectivement.
Mes parents sont ici. Je suis née ici et j'ai grandi ici.
Donc vous êtes française ?
Non, je suis algérienne. Enfin si, si, bien sûr que je suis française. En vérité, je ne suis pas unique. Je suis double.
Alors la même école de commerce, là on est sorti de la chambre d'examen, on est dans un couloir, on suit Selma, le Walkman, un signal qu'on est bien dans les années 90, et le regard d'un étudiant, Julien, signale qu'elle n'est pas passée inaperçue.
Très joli sourire.
Et t'as des très beaux seins.
Oui, qu'elle n'est pas passée inaperçue, que lui-même n'est pas passé inaperçu au regard de Selma. Enfin, c'est la scène, disons...
C'est une rencontre.
C'est une rencontre. C'est une rencontre. C'est un coup de foudre que je qualifierais de subtil, qui n'est pas complètement assumé, mais qui est bien là. Enfin, et c'est ce personnage tout en ambivalence, en fait.
Tu viens de passer l'oral ?
Ouais.
Ça s'est bien passé ?
Tout en ambivalence parce que justement, il est à la fois séducteur, séduisant et en même temps dérangeant d'emblée. C'est-à-dire que cette façon de l'aborder en lui parlant directement de sa poitrine est problématique. Et en même temps était tellement banal à l'époque. Elle l'est peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, c'était... cette façon d'objectifier en fait le corps des femmes était la norme. Donc j'avais envie effectivement qu'on rentre avec dans ce personnage en tout cas de manière aussi crue et directe, et aussi pour placer le fait que c'est contre ça aussi qu'elle va devoir lutter, c'est-à-dire qu'il y a une attirance, mais comment faire et comment vivre une rencontre, potentiellement un amour même, on ne sait pas, si d'emblée les cartes sont faussées en réalité, et ni de la faute de l'un ni de la faute de l'autre.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Pourquoi tu es agressive comme ça ? Je suis venue te chercher.
Elle est où la voiture ?
Par là. Alors ? Comment ça s'est passé cet oral ?
Très bien.
Alors là, on est devant l'école de commerce et le père de Selma, donc c'est Elias Salem, est venu la chercher pour savoir si l'oral s'est bien passé.
Voilà, donc déjà il est là. Déjà, il attendait. Ce qu'on appelle aux États-Unis, vous savez, les parents hélicoptères, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un autour
qui font des cercles concentriques sur l'enfant.
Et comme vous le disiez très justement au début de l'émission, c'est bienveillant. C'est-à-dire que l'intention est de protéger, d'accompagner, d'être là. Ce qui m'intéressait aussi, c'était cette première réplique où tout de suite elle lui dit, enfin, elle lui demande, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et que la première réaction, c'est, mais pourquoi es-tu si agressive ? Et c'est cette accusation, j'ai envie de dire, d'agressivité, on l'a tellement toutes, beaucoup entendue, je crois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est affirmative, où on se défend, tout de suite, en fait, c'est l'agressivité, quoi. Donc, j'avais envie de placer ça assez rapidement. Ça me faisait plaisir. Hein, je l'ai trop entendu. Et en même temps, aussi d'amener ce père comme ça, qui en réalité est juste là pour s'enquérir de l'état de sa fille, de cet entretien qui sans doute a beaucoup d'importance aussi pour lui, pour la réussite de sa fille, mais de jouer sur ce contraste entre ce qu'elle vient de vivre avec ce garçon et ce petit éveil de désir, là, cette petite piqûre d'un coup, et ensuite derrière l'autre rôle à jouer qui est celui de la fille.
Parfaite.
Voilà.
C'est un cursus reconnu par l'État. Ouvert sur l'international, ça m'offre mille fois plus de possibilités qu'une prépa.
Mais enfin, une école préparatoire, c'est la voie royale, tu peux pas espérer mieux.
Les cibles lui ouvriraient l'international, comme elle le dit.
Enfin, je sais rien de cette école, moi.
C'est la fille de Ben Slimane, je crois, qui était assez contente de son cursus. Ben alors, elle fait un billet à Boston.
Mais il n'a jamais été question que Selma fasse ses études aux États-Unis, excuse-moi.
Non, mais attends, c'est toi qui choisis mes études ou c'est moi ?
J'ai sacrifié ma carrière pour que tu réussisses brillamment. Et c'est certainement pas pour que tu risques tout gâcher maintenant sur un simple coup de tête.
Je t'ai jamais rien demandé, moi.
Ok, intérieur jour, Selma affronte, on vient de l'entendre, ses parents et surtout sa mère, jouée par Amira Khazar. Camille, décrivez-nous le mobilier de la pièce, parce qu'il me semble qu'il dit beaucoup aussi de cette famille.
Oui, ben c'est un mobilier un double tranchant, mais en fait, c'est-à-dire que on est à la fois dans un décor bourgeois français Louis XVI classique, mais joliment choisi, enfin disons avec goût, en tout cas visiblement le goût de la mère, puisque à l'époque, c'est enfin souvent encore aujourd'hui quand même, voilà, la décoration est assurée du côté plutôt féminin. En tout cas, on sent cette éducation et moi c'est un milieu dans lequel j'ai grandi. Mes oncles, mes tantes aussi, des amis de mes parents, voilà, il y a cette finesse et cette comment dire, cette éducation aussi par rapport à la décoration, voilà.
Donc, ce raffinement.
Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Et aussi les poteries berbères et évidemment les tapis persans et tous ces bibelots en fait qui racontent notre culture. Et donc pour moi, c'est un décor qui raconte l'exil en fait et toute sa richesse. Dans tous les sens du terme. Et aussi, dans cette scène, on est directement plongé dans le conflit, un des conflits centraux, en fait, du film, qui est la mère et la fille. Voilà. Et tout de suite, on comprend que cette mère a arrêté de travailler, et tout ce qu'elle reporte aussi sur sa fille, à juste titre ou pas, et que c'est le moment où Selma veut se définir par elle-même. Et donc là, on embraye, on entend une musique. Plus atmosphérique, hein. Puisque suite à ce conflit, en fait, la façon de Selma de gérer ça, finalement, c'est de se réfugier dans ce désir qu'elle a ressenti avec Julien, qui lui a parlé de sa poitrine. Et pour la première fois, elle va regarder cette poitrine, qui lui appartient pourtant, mais pour la première fois, elle va peut-être la regarder d'un autre œil. Alors on ne la voit pas, cette poitrine, à l'écran, puisqu'à aucun moment je n'ai voulu filmer les corps eux-mêmes, mais plus la réaction des personnages par rapport justement à leur corps. Et voilà, donc c'est une nouvelle forme d'éveil par rapport à elle-même, je dirais.
Mais bien sûr, toi-même, tu m'as dit que tu n'aurais jamais vu pour moi.
Alors, c'est pas pour tout de suite, de toute façon, tu finirais d'abord tes études.
Je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment pour avoir cette conversation-là.
Non, et d'ailleurs, je veux plus en parler.
Bonsoir. Ça va? Ça va?
Alors là, c'est encore dialogue mère-fille et puis donc le père aussi. Ils sont invités à dîner chez des amis et là, il y a une histoire de mariage arrangé. Enfin, en tout cas, les parents aimeraient bien que fils et leur fille s'entendent.
En tout cas, on rentre dans le monde des apparences que l'on connaît tous quand même, tous et toutes, peut-être pas tous et toutes, mais qu'on connaît quand même beaucoup, quel que soit le milieu, quel que soit le pays, quelle que soit la culture. Ou d'un coup, quand on est en société comme ça, voilà, il faut paraître et apparaître d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est vraiment une question de mariage arrangé, parce que d'un coup, on rentre dans quelque chose de très archaïque, traditionnel, même si c'est une des questions du film. C'est plus l'union arrangée ou alors la volonté de... Encore une fois, ça part d'une intention bienveillante que la fille, l'enfant, trouve chaussure à son pied, je dirais. Mais donc, ça part bien du principe de base, du postulat de départ, qui est que pour devenir, il faut se marier, de toute façon. Donc là, on rentre voilà, dans cet univers où il y a un jeune homme de bonne famille, lui aussi, qui pourrait correspondre à Selma, même si, bien sûr, personne ne veut de ce type d'arrangement, car on est beaucoup plus moderne et libre que ça, ce qui est le cas, hein, d'ailleurs. Mais ce qui serait idéal, c'est qu'il lui plaise, en fait, tout simplement, et qu'elle lui plaise, et que ça puisse se faire. Là, ce serait vraiment le meilleur des mondes.
Ma chérie, s'il te plaît, va voir Salim.
Je préfère rester là, Tata Hafida.
Salim!
Ah, il est là,
Salim.
Ah, il est là.
Salim. Bah,
il est là.
Caché. Voilà.
Bonsoir. Ça va?
T'as encore poussé, Salim. Toi.
Alors justement, après une conversation, si je puis dire, entre adultes, hein, où il était beaucoup question du présent et de l'avenir politique de l'Algérie, voilà qu'on a poussé Selma dans la chambre de Salim. Salim, c'est le fils.
C'est le fils des amis. Et là, pour le coup, c'est un petit peu... C'est pas forcément ce que les parents de Selma auraient souhaité, si c'est pas sa volonté à elle spécifiquement. Après, ce jeune homme... très bien campé par Jules Bengana dans toute sa sensibilité. En même temps, lui-même est perdu. C'est-à-dire, lui-même, c'est pas très, très bien... Enfin, c'est gênant, quoi. C'est cette gênance, comme disent aujourd'hui les jeunes de l'adolescence, où on est l'un face à l'autre, où il y a toutes les hormones, et en même temps, on sait pas quoi faire. Il y a plein d'interdits qui pèsent sur nous, surtout dans ce milieu à ce moment-là. Et en même temps, voilà, ils savent pas très bien quoi faire l'un de l'autre, l'un avec l'autre. Et donc, ce qui reste à faire, ben... C'est peut-être tout simplement expérimenter, voilà, en cachette, en dépit de l'interdiction formelle des parents, juste pour essayer.
Ça va pas.
Allez, juste pour essayer. Je suis sûre que toi aussi t'aimerais bien.
J'y vais.
3 secondes. Juste pour essayer. On dira jamais à personne.
Et donc ce bisou.
Mais c'est elle qui l'embrasse.
Bah, c'est lui qui va vers elle, et puis après, du coup, elle y va. Alors voilà, c'est-à-dire que si à un moment, il y a aussi des corps qui se retrouvent, c'est humain. Donc,
mais c'est un peu une agression, non, alors, pour elle, parce que voilà, elle a un visage, racontez-nous son visage, et puis la façon dont elle s'essuie la bouche. Est-ce que c'est pas un peu le premier pas d'un processus d'autosoumission?
Mais alors là, j'ai un aveu à vous faire, c'est-à-dire que moi, c'est au tournage d'abord et au montage ensuite que je me suis dit, oh, mais en fait. En fait, elle n'en avait pas envie, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, c'est effectivement une... Et même à l'écriture, c'est-à-dire à quel point on intériorise, en fait, ce genre de comportement, je n'avais pas complètement vu à quel point c'est quelque chose qu'elle subit, effectivement. Mais sous les traits du personnage de Selim, qui est plutôt poupin, et aussi dans un contexte, à un âge où on a envie de cette expérimentation, en fait, je trouve que la zone est très grise. Et que c'est compliqué de définir qui fait quoi et qui veut quoi. C'est très compliqué. Et là, le coup près.
Non, mais tu es complètement folle.
Je te jure qu'il s'est rien passé.
J'espère qu'il t'a pas défloré.
Arrête d'utiliser ce mot, je déteste ce mot.
C'est tout de même pas toi qui l'as aguiché, j'espère.
Mais non, je te dis qu'il s'est rien passé.
Tu mens. Hafida m'a dit que Selim avait reçu la tournole de sa vie.
Écoute, je sais pas ce que son père lui a dit, mais il est complètement cinglé, celui-là. Arrête.
Je comprends pas. Je te mets en garde exprès. Avant qu'on arrive chez eux. Pour que tu sois exemplaire. Et ça se termine en affaire d'État.
Maman, c'est ridicule, on dirait que quelqu'un est mort.
Mais si Hafida parle, t'imagines ce qu'on va dire sur toi, Alger?
Mais alors?
Et alors? Tu te rends compte de ce que tu fais? J'en parle, Selma. Si tu te comportes pas bien, ta réputation sera fichue, tu passeras pour une aguicheuse, c'est ça que tu veux?
Mais ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent.
Mais ne dis pas n'importe quoi! Ta priorité, ce sont tes études. Ensuite, tu te marieras avec qui tu voudras. Un Français, un Algérien, un Américain, qui tu veux. En attendant, je veux plus entendre parler de ce genre d'incident honteux avec un garçon. Sinon, c'est à ton père que tu auras affaire.
C'est quand même les injonctions un peu contradictoires des parents aussi, non?
Mais complètement. Et donc alors là, pour le coup, Amira Khazar, formidable dans cette dualité, qui à la fois veut tout ce qu'elle veut de plus moderne possible, qui veut vraiment pousser sa fille vers la voie de la liberté, de l'indépendance, et qui en même temps, elle-même, est incapable de se départir de cette injonction, justement, du mariage, de la réputation. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement collé en elle que même quand sa fille le lui dit, il lui met le nez dessus. Elle ne l'entendra pas, quoi. C'est cette génération-là, je pense que c'était pas possible. Ça a été une manière de se définir qui était tellement profonde, ancrée, que là, on est en plein dedans.
Et j'aime beaucoup la fin de la séquence, parce qu'on a Selma qui est sans doute en pyjama au fond de son lit, et sa mère qui a cette espèce de blouson doré, enfin on dirait une espèce de carapace et d'armure, et tout dans cette séquence, c'est-à-dire le cadre, l'amorce, l'angle de la caméra, tout indique que Selma est complètement assiégée.
Elle est assiégée, elle est même dominée, elle est vraiment dans ses retranchements, quoi. C'est-à-dire qu'elle est au fond de son lit. Sa mère est comme ça au-dessus d'elle, et on sent bien un enfermement, même dans le cadre, effectivement, où on est vraiment... Il n'y a pas d'espace autour, quoi. Donc, elle est acculée, en fait.
Camille Reynouz, merci d'avoir accepté le principe de cette leçon de cinéma, d'avoir commenté les 10 premières minutes de votre film. Je voudrais qu'on parle un peu de Zoa Djani, parce que c'est quand même son premier grand rôle au cinéma, c'est pas rien. Et... elle a un mélange, en fait, de vulnérabilité et de dureté qui est vraiment impressionnant dans le film. C'est pour ça que vous l'avez choisi ?
Oui, c'était vraiment c'est quelque chose que j'ai ressenti tout de suite quand on s'est rencontrés, cette fragilité qu'elle pouvait avoir dans le sens de la sensibilité, c'est-à-dire que je percevais sur son visage ses frémissements. Elle était à fleur de peau. Et donc, disponible émotionnellement, on pouvait lire sur son visage vraiment ce qu'elle ressentait. Et en même temps, j'ai senti aussi une force de caractère très ancrée, comme une sorte de pilier, quoi. Quelqu'un qui sait qui elle est, qui sait où elle va, hein, qui sait d'où elle vient, et qui avait une lecture très mûre déjà sur le scénario. Donc c'est important aussi en tant que réalisatrice de pouvoir se dire que on va pouvoir aussi s'appuyer sur cette comédienne et sur sa comédienne principale, parce qu'il fallait qu'elle soit en mesure de porter le film quand même.
Et l'affrontement avec Amira Khazar, il est magnifique, hein, on ne va pas déflorer votre film. Mais voilà, le personnage de la mère va devenir de plus en plus, comment dit-on en français, divulgaché, spoiler, va devenir de plus en plus important. Et en fait, cet affrontement mère-fille, il est central, parce que ce que montre le film, c'est que c'est par là que passe la transmission du patriarcat.
Alors, c'est par là aussi qu'elle passe. C'est-à-dire qu'elle passe aussi quand même beaucoup de père en fils, d'homme en homme. La transmission de la richesse elle-même, qui est le fondement même du patriarcat, ce fonctionnement-là reste bien présent. En revanche, je pense qu'il y a quand même une partie qui est justement entre nos mains. Et c'est effectivement ça qui m'intéressait. C'est-à-dire qu'à un moment, ce soit ce double parcours, que la fille influence la mère et la mère influence la fille. C'est-à-dire que ce soit des vases communicants, c'est l'expérience de l'une sert à l'autre, quoi, et que la mère puisse grandir elle-même, c'est-à-dire évoluer au contact,
apprendre sa fille.
Exactement. Et je pense que nos enfants nous élèvent de la même façon qu'on les élève. Et là, je trouvais que ce rapport-là était puissant, c'est-à-dire que c'est là que réside vraiment la force de transformation en réalité d'un système. C'est au niveau intime, c'est dans la façon dont on régit l'amour, hein, qu'il soit filial, qu'il soit romantique, et cette façon dont je trouve ça très émouvant, en plus la façon dont l'a incarné aussi Amira, de cette prise de conscience en fait qu'à un moment, si elle continue comme ça, elle fait du mal à sa fille en réalité, et elle est en mesure de s'en rendre compte et d'agir en conséquence. Et ça, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour.
Dans Cigare au miel, vous avez eu l'impression de faire le portrait d'une génération ?
Non. En tout cas, je ne me le suis pas dit comme ça. Ce que je me suis dit, en revanche, parce qu'une génération, c'est très large, mais en tout cas, je sais que j'étais aussi beaucoup émue, mais du coup, alors peut-être même pas que pour Cigare au miel, mais dans mes envies de cinéma. En fait, je me sens très proche de mes cousines et d'amis qui sont comme moi, qui sont issus de ces deux cultures, et je trouvais qu'en fait, et je trouve encore qu'il y a une forme de troisième en fait culture qui naît. J'aime pas dire que je suis franco-algérienne ou moitié française, moitié algérienne. Pour moi, on est française complètement, on est algérienne complètement, et ça crée comme ça une nouvelle identité. Et ça, pour le coup, j'avais envie de le capter. Et donc, si ce film capte quelque chose, c'est peut-être cette génération de cette immigration-là, je dirais.
Pour vous, c'était libérateur d'écrire ce personnage et puis ensuite de le voir si bien incarné à l'écran par Zoé Adjani.
Oui, parce qu'ensuite, ce qui devient intéressant, c'est quand ça dépasse en fait l'envie première et le sujet, et que quand ça s'incarne, d'un coup, peut-être même pour faire le lien à ce que vous venez de dire, le portrait d'une génération, d'un coup, ça devient le portrait d'une jeune femme. C'est-à-dire que moi, j'avais mon intention première et ce qui me meut, enfin en tout cas ce que j'ai dans les tripes et ce qui m'agite, et qui est effectivement parfois culturel, parfois amoureux, parfois, enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous motiver. Et puis d'un coup, ça arrive à l'écran et c'est incarné par une jeune femme comme Zoé Adjani, et ça devient, ça transcende. Mmh. Bah ça, oui, ça choque au départ parce que d'un coup, d'abord ça fait plaisir qu'enfin ce soit incarné. Et puis du coup, on a un regard complètement extérieur. Ça devient une histoire qui nous dépasse complètement et qui devient, alors là, beaucoup plus largement, mais ça va même au-delà de l'histoire d'une femme, ça devient une histoire humaine, quoi, tout simplement, de comment lutter contre soi-même et contre les autres pour devenir, quelle que soit l'adversité, finalement. On a tous à traverser des obstacles. Et donc, voilà, c'est devenu ça, quoi. C'est devenu où est sa force intérieure et comment va-t-elle faire pour devenir dans ce monde qui est le nôtre.
Merci beaucoup, Camille Reynouz. Cigare au miel, c'est le nom de votre film, donc dans les salles françaises depuis mercredi. Vous restez avec nous pour le journal du cinéma de Sophie Torlotin. Mais avant, on va écouter Imani. C'est le choix musical de notre réalisatrice, Fanny Renard.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. The way that things have been. Second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one, not the self, I'm the mistress of my sea. yeah, the mistress of my sea. I was broken from a young age, taking my sulking to the masses, writing my poems for the few. Look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me up, believer, believer. Pain, oh let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate you've heard, I turn your spirit to a dove. Yeah, your spirit up above. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings there would drown. But they never did, ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me a, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me up, believer, believer. Pain, oh let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer. Last things last, by the grace of the fire and the flames, you're the face of the future, the blood in my veins. You're the blood in my veins. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me a, you made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, oh let the bullets fly, oh let them rain. My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a, you made me a believer, believer.
Et c'est le moment de notre journal du cinéma avec vous, Sophie. Première étape, les États-Unis.
Oui, où la Palme d'Or de Cannes, Titan, cartonne. Alors ce film, hein, Titan, qui montre une tueuse en série qui se fait passer pour un garçon disparu. Titan donc est sorti aux États-Unis sur 500 copies, ce qui est énorme en fait pour un film français là-bas. Le premier week-end a été excellent, 530 000 entrées. C'est bien plus que les 400 000 espérés et bien plus aussi que les 300 000 entrées France.
Ah oui, donc Hollywood sacre Julia Ducournau. Quant aux États-Unis, eh bien, ils auront peut-être besoin assez vite de films et de séries étrangères.
Et oui, car les membres de 36 syndicats de techniciens ont voté le principe d'une grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail, une rémunération plus juste. Au total, ce sont 60 000 employés qui ont donné leur accord à un blocage des tournages de films et de séries, si ça s'avère nécessaire, donc si les négociations n'aboutissent pas. Coiffeurs, accessoiristes, machinaux se plaignent d'être exploités à mort et on leur voit même refuser leur temps de repos, les pauses repas, depuis que l'industrie de la télévision et du cinéma a redémarré après le Covid.
Why would I betray you?
We all have our secrets. You just didn't get to yours yet.
sauvera-t-il le monde? Et accessoirement, Sophie, les salles de cinéma, c'est James Bond 007, enfin sorti sur les écrans après des mois, voire des années, 3 ans, je dirais, d'attente. C'est le 25e film de la franchise, mais aussi le dernier, incarné par Daniel Craig.
Oui, alors, cascade spectaculaire, menace mondiale, dépaysement en Jamaïque ou en Norvège. Mourir peut attendre aligne les fondamentaux de la franchise James Bond. Le film, achevé bien avant l'apparition du coronavirus, surprend même avec l'invention d'un virus mortel créé en laboratoire, pouvant cibler des populations précises. Alors, même s'il respecte les codes du genre, ce 25e James Bond tient compte aussi des avancées féministes post-MeToo. Ainsi, 007 ne séduit plus aussi facilement qu'auparavant. L'espion britannique incarné par le blond et sculptural Daniel Craig a même la surprise de voir son matricule réattribué à une jeune agente noire.
The world's moved on, Commander Bond.
You a 00?
2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. The one that works.
I thought you two would get along.
Name?
Bond.
James Bond.
So you're not dead?
Hello, Q, I've missed you.
It's the most valuable asset this country has.
Mais le héros est fatigué, un James Bond, même James Bond. Cette ultime performance de Daniel Craig, 53 ans, le montre même pré-retraité, aspirant en vain, je vous rassure, à une vie de famille avec Madeleine Swann, alias Léa Seydoux. L'intrigue, eh bien, elle est particulièrement faible de ce James Bond. Vous me direz, elle n'est jamais non plus dingue, mais enfin, cette fois-ci, elle est vraiment faiblarde.
Oh, il y a eu des bons James Bond.
Bon, il y a quelques surprises à
c'est
ne pas.
C'est pas le cas, alors.
Il y a quelques surprises à ne pas divulgâcher, mais je vous confie avoir eu du mal à ne pas m'endormir. Ça dure 2h45. Rami Malek, très figé, ne campe pas vraiment un ennemi d'envergure. Donc, de mon point de vue, c'est décevant. Je sais que je ne suis pas la seule critique à avoir jugé décevant, mais je sais que d'autres, au contraire, ont trouvé que ça renouvelait le genre. Alors, est-ce que ce 25e Bond pourra remplir les salles du monde entier? Au vu, en tout cas, des premiers résultats au box-office britannique la semaine dernière, eh bien, tous les espoirs restent permis.
Mourir peut attendre, c'est donc la grosse sortie de la semaine. Et Sophie, vous vouliez attirer notre attention sur un film qui sort mercredi prochain, qu'on a découvert à Cannes, c'est Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. On dit Trier ou Trier ?
On dit Trier.
Ah, Trier, pardon.
Il est norvégien. Alors, on parlait avec vous, Camille Reynouz, du portrait d'une jeune femme dans sa vingtaine d'années, dans les années 90. Eh bien, Julie en 12 chapitres, c'est le portrait d'une trentenaire aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. Ça peut faire aussi un dialogue avec votre film. Effectivement, de mon point de vue, c'est l'une des très belles surprises du dernier festival de Cannes, hein, ce film du norvégien Joachim Trier.
Oh, yeah, beautiful.
Julia, det kan ikke skje noe med oss. Jeg har en kjæreste som er veldig glad i.
Ok.
Ha det.
Ha det.
Hva er det det handler om?
Jeg bare føler at du går rundt og venter på noe. Jeg skjønner ikke hva det er lenger.
Qui montre donc une Julie qui se cherche, qui vit plusieurs histoires d'amour. C'est un très beau film à la fois gai et mélancolique, porté par l'actrice Renate Reinsve, qui a d'ailleurs décroché le prix d'interprétation féminine à Cannes. Alors j'ai rencontré Joachim Trier, qui était de passage à Paris. Je lui ai demandé s'il avait voulu tirer le portrait de la génération suivante, lui il a 47 ans, ou s'il avait surtout voulu se mettre à la place d'une femme.
I wanted to explore love. I haven't made a film about love, and then through love I realized.
Je voulais explorer le sentiment amoureux. Je n'avais encore jamais réalisé de film sur l'amour, et je me suis rendu compte que c'est devenu une histoire existentielle sur le passage du temps et les histoires d'amour qui deviennent des expériences marquantes avec la durée.
Fundamental experiences that we look back at as essential relationships in our lives. So I thought actually that I realized through Julie, who's a character who's actually
Julie, c'est un personnage très romantique. C'est une rêveuse capable de s'enthousiasmer. Elle veut tout et je la comprends. Mais en même temps, j'ai compris que pour elle, c'est difficile d'accepter la réalité. Elle sait ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est un personnage intéressant à étudier.
She knows what she doesn't want, but she doesn't know what she wants. And I found that an interesting character to explore.
Alors, est-ce que Julie, est-ce qu'elle arrive à se trouver en un sens via ces différentes relations amoureuses?
Well, so what I did not want to do was to make a story where, like, oh, a woman needs a man to find herself. So
what je ne voulais surtout pas montrer une femme qui a besoin d'un homme pour se trouver. Mais je pense que ces différentes relations amoureuses lui permettent de prendre conscience de ses facettes multiples. Sa première histoire, c'est avec un mec plus âgé, un auteur de BD underground, un peu punk. Elle l'idéalise et lui aime sa jeunesse, son énergie. Mais en fait, ils ne se rencontrent jamais vraiment et c'est tragique. Et puis elle tombe amoureuse d'Evin, un jeune barman. Et lui aussi se cherche. Ils se mettent ensemble avec ce sentiment de liberté, mais elle se rend compte progressivement que ce partage d'intimité la perturbe.
Alors, il y a une séquence particulière dans le film où, par le jeu de la mise en scène, vous rendez concret le coup de foudre et ce sentiment, cette aspiration à arrêter le temps. Comment vous avez fait? Vous avez utilisé des effets spéciaux?
Most of this film, I wanted it not to be too slick and not too digital. I wanted to feel organic and
non, je voulais vraiment faire un film organique. Je voulais qu'on sente la vie. Effectivement, il y a cette scène où Julie rêve qu'elle peut arrêter le temps et s'enfuir avec Evin, qu'elle vient de rencontrer une soirée. Elle court dans les rues alors que la vie s'arrête. Et on a juste demandé aux figurants de ne pas bouger. On a tourné pendant le Covid. Et c'était génial de voir une centaine de personnes travailler ensemble pour créer cette scène sans effet spécial. C'était dur, mais c'était très joyeux, comme une fête de quartier, et j'ai adoré ça.
Julie, en 12 chapitres de Joachim Trier, c'était votre coup de cœur de la semaine.
Ça,
Sophie,
par exemple, j'ai très
Torlotin.
Envie.
C'est vrai.
Ça donne envie.
Mercredi prochain.
Alors, on termine ce journal du cinéma à Moscou, puisque la Russie vient d'envoyer l'une de ses stars du grand écran et un réalisateur dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour y tourner le premier long métrage en orbite de l'histoire. Le cinéma est-il la nouvelle frontière de la compétition spatiale? C'est un reportage de notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri.
45 secondes avant le décollage, le décompte, les tout derniers instants, puis le départ du vaisseau Soyouz. Comme un film dans le film, avec d'énormes moyens, un drone, 72 caméras installées au milieu du vent fort qui souffle dans la steppe kazakh, direct de Baïkonour et édition spéciale depuis plusieurs jours. À la télévision, le réalisateur Klim Shipenko détaille en long et en large l'exploit technique.
Nous allons utiliser les mêmes caméras professionnelles qui servent à tourner des films sur Terre. Nous en avons déjà envoyé là-haut. Et nous en avons deux en plus qui voyagent avec nous.
Lui va rester sur Terre. Andrei Danilian, le deuxième réalisateur, donne lui aussi beaucoup d'interviews.
Ce sont 40 minutes de films qui doivent être tournés dans l'espace, et cela en 12 jours de mission. Ça veut dire qu'on va devoir tourner en moyenne 4 minutes par jour. Pour bien vous faire comprendre l'enjeu, sachez que d'habitude, sur Terre, on tourne 1 minute et demie à 2 minutes par jour. Mais bon, il est toujours important de laisser sa chance au hasard.
Pour ce film intitulé provisoirement Le Défi, le réalisateur et l'actrice ont dû mettre les bouchées doubles pendant 4 mois d'entraînement accéléré, une période abondamment partagée par Yulia Perez sur son compte Instagram. On a ainsi pu voir cette star du cinéma russe en combinaison bleu pétrole, genoux ramassés avec ses bras sous le menton, faire des tours très rapides sur elle-même en apesanteur dans une petite boîte.
La première pensée que j'ai eue quand on m'a proposé le film, c'est « est-ce bien possible ?» Mais si jamais c'est possible, alors j'ai très, très envie de le faire. Est-ce que j'ai un brevet de super-héros? Non, je suis juste une femme ordinaire.
Cette figure des films à tonalité patriotique va incarner une médecin justement ordinaire qui part en urgence sauver la vie d'un cosmonaute en détresse. L'exploit et le scénario auraient, dit-on, charmé le président russe. Signe de l'importance de ce projet pour Moscou, les producteurs sont des poids lourds. Dimitri Rogozin, le directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos et ancien vice-premier ministre, Konstantin Ernst, puissant patron de Pierreville Canal, la première chaîne de télévision russe qui diffuse depuis des jours cette bande-annonce. Premier film dans l'espace, dit la voix off. Premier, comme avec Yuri Gagarin il y a 60 ans. Avec ce film, c'est toute la saga spatiale soviétique et tout son imaginaire et sa fierté qui est réactivée.
C'est par ce reportage de notre envoyée spéciale permanente à Moscou, Anissa El-Jabri, que se termine notre émission. Merci. Camille Rinouze.
Merci à vous.
On se quitte avec la BO, avec Julie Rouet, la BO de votre film Cigare au miel en salle depuis mercredi. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Dreamers.